c'est-à-dire plus de 2000 personnes de par le monde, travaillent pour aider ceux qui sont en prison, ceux qui se font torturer, ceux dont on brûle la Bible. Et je peux continuer comme ça pendant 10 minutes. 70 ans que des gens sont au service des autres. Et la prochaine diapo vous montre le monde tel qu'il est aujourd'hui. Je ne sais pas si vous réalisez toute cette bande centrale avec les pays en rouge qui sont les pays où ça cogne le plus. J'aime pas dire que j'ai eu la chance d'aller, j'aime dire que j'ai eu le privilège d'aller visiter des chrétiens en souffrance au Bangladesh, au Nord Cameroun, en Colombie, en Égypte. Quand vous vivez ça avec eux, c'est impressionnant. Et ça permet de relativiser ce que nous vivons parfois avec nos petits soucis de notre vie quotidienne. Ils glorifient leur Seigneur et ils prient pour nous. Ils prient pour nous. Et ils m'ont déjà dit, mais comment vous faites pour ne pas perdre la foi dans le monde où vous êtes? Comment faites-vous pour ne pas perdre la foi? Je nous invite maintenant à rentrer dans ce moment d'étude de la parole. Si, Patrice, s'il te plaît, tu peux aller à la diapo. Voilà. Nous traversons tous, durant certaines périodes de notre vie, des moments de désert ou de difficultés. Ces moments difficiles d'adversité soulèvent souvent des questions relatives à l'amour de Dieu pour nous. Il peut aussi nous sembler que Dieu soit lointain et inactif à nous sauver. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Ces interrogations peuvent nous éloigner de lui et compromettre notre foi. L'histoire du peuple de Dieu, la parole parle du peuple d'Israël, et le témoignage de chrétiens vivant sous la persécution peuvent-ils nous aider à décoder les choses? Parce que les chrétiens persécutés, c'est dans le plan de Dieu aussi pour nos vies. Que montre le récit biblique de la manière dont Dieu prend soin de son peuple? L'Ancien Testament, le peuple, c'est le peuple d'Israël. Le peuple au XXIe siècle, c'est nous. Serait-il possible que l'amour et la fidélité de Dieu se cachent même au cœur de nos épreuves? Question difficile. Lisons ensemble l'histoire de l'Ancien Testament et entendons ce que Dieu veut nous dire. Qui a sa Bible papier ou sa Bible numérique avec lui? Donc je vous invite à l'ouvrir dans 1 Samuel chapitre 7, versets 1 à 17. Et là, ça va être un exercice pour moi de prononciation de noms et de lieux juifs. Les gens de Kiryat Yéarim, c'est le premier, Kiryat Yéarim, vinrent prendre le coffre de l'Éternel et le transportèrent dans la maison d'Abinadab sur la colline. Ils établirent son fils Éléazar comme gardien du coffre de l'Éternel. 20 ans s'écoulèrent depuis le jour où le coffre avait été déposé à Kiryat Yéarim. 20 ans. L'ensemble du peuple d'Israël aspirait à revenir à l'Éternel. Alors Samuel dit à tous les Israélites, « Si c'est de tout votre cœur que vous voulez revenir à l'Éternel, faites disparaître de chez vous les dieux étrangers et les idoles d'Astarté, et attachez-vous de tout votre cœur à l'Éternel, et rendez-lui un culte à lui seul. Alors il vous délivrera des Philistins. » Les Israélites firent disparaître de chez eux les Baals et les Astartés, et ils ne rendirent plus de culte qu'à l'Éternel. Samuel leur dit alors, « Assemblez tout Israël à Mitzpah. Je prierai l'Éternel pour vous. » Ils s'assemblèrent à Mitzpah, puisèrent de l'eau et la répandirent sur le sol devant l'Éternel. Ils jeûnèrent ce jour-là et confessèrent, « Nous avons péché contre l'Éternel. » C'est là, à Mitzpah, que Samuel fut le juge du peuple d'Israël. Lorsque les Philistins apprirent que les Israélites s'étaient réunis à Mitzpah, leurs cinq princes décidèrent de les attaquer. Les Israélites en furent informés et ils prirent peur des Philistins. Ils dirent à Samuel, « Ne cesse pas de supplier l'Éternel notre Dieu en notre faveur pour qu'il nous sauve des Philistins. » Samuel prit un agneau de lait et l'offrit entièrement en holocauste à l'Éternel. Puis il supplia l'Éternel de venir en aide à Israël et l'Éternel exauça sa prière. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. Mais à ce moment-là, l'Éternel fit tourner contre les Philistins un puissant tonnerre qui les mit en déroute, de sorte qu'ils furent battus par les Israélites. Ces dernières sortirent de Mitzpah et battirent les Philistins en les poursuivant jusqu'au-delà de Beth-Kar. Samuel prit alors une pierre, la dressa entre Mitzpah et Shen et l'appela du nom d'Ebenezer, qui signifie « la pierre du secours ». La pierre du secours, en disant « Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus ». Les Philistins furent humiliés par cette défaite. Ils ne pénétrèrent plus à l'intérieur des frontières d'Israël, car l'Éternel intervint contre eux pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises à Israël, d'Écron à Gath, revinrent aux Israélites qui libérèrent tout leur territoire de leur emprise. La paix régna également entre Israël et les Amoréens. Samuel continua à exercer le pouvoir judiciaire en Israël durant toute sa vie. Chaque année, il faisait un circuit s'arrêtant à Bethel, à Gilgal et à Mitzpah. Il rendait la justice pour les Israélites en chacun de ces endroits. Puis il revenait à Rama où il demeurait. Là aussi, il rendait la justice pour les Israélites. Il y avait bâti un autel à l'Éternel. Si on peut passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Alors aujourd'hui, il ne s'agit pas de parler d'Israël du 21e siècle et des malheurs que l'on découvre dans cette région, de qui que ce soit la responsabilité. Je tiens à être clair, ça n'est pas l'objet de cette discussion et de cette méditation en ce jour. Ce qui se passe au 21e siècle, ça n'est pas ce qui se passait à ce moment-là, et ce qui s'est passé dans la lecture de ce texte, nous allons essayer de le faire nôtre, comme tout ce que la parole de Dieu nous enseigne. Ensemble, nous allons tenter de nous pencher sur ce que ce texte a à nous dire. En regard ce que nous avons déjà entendu de l'Église persécutée ce matin, toute l'année, depuis des années. Vous savez, il y a une chose intéressante qui réjouit mon cœur et qui l'attriste aussi. La semaine dernière, je présentais le budget global de porte ouverte pour toutes ces opérations dans le monde au conseil d'administration. Nous avons voté le plus haut budget consacré au service de l'Église persécutée de toute l'histoire de porte ouverte. Ça réjouit mon cœur parce que nous mettons des moyens pour les aider, et ça l'attriste parce que ça veut dire qu'il y en a de plus en plus. Où est la bonne balance? Essayons de comprendre mieux ce texte. Des temps d'oppression et de confusion spirituelle, premier thème. Deuxième, la nécessité d'un retour sincère à Dieu. Et enfin, une pierre est posée comme nous l'avons vu à l'écran. Prochaine diapo, s'il te plaît, merci. Un contexte spirituel troublé. Cette histoire se déroule dans un contexte difficile de l'histoire du peuple de Dieu. Elle clôture la période d'un livre pas facile à lire quand on le lit, Les Juges, qui raconte toute cette histoire dans le livre éponyme. La relation entre Dieu et son peuple est en dents de scie, le même cycle se répétant plusieurs fois. D'abord, Israël s'éloigne de Dieu et adopte les idoles des peuples voisins. Puis, cet éloignement empêche la bénédiction et la protection de Dieu. Les ennemis d'Israël peuvent alors prendre le dessus et maltraiter le peuple de Dieu. Après, qu'est-ce qui se passe ? Dieu appelle et envoie un homme ou une femme appelé juge pour ramener le peuple à lui et le délivrer de l'oppression. Puis le cycle recommence quelques dizaines d'années plus tard. Nous venons de lire ici en quelque sorte un énième épisode de cette histoire plusieurs fois reproduite. Est-ce que vous avez déjà lu Les Juges en vous disant « Est-ce que ça ne serait pas un peu ma vie ?» Parfois. Facile de dire « Ce peuple était rebelle, adorait, se détournait. » Qu'est-ce que je fais, moi, dans ma vie ? Qu'est-ce que chacun de nous ici fait, a fait, fera ? J'ai la question en suspens, à chacun d'y répondre et d'analyser sa propre vie. Une alliance mal comprise. La lecture du contexte montre qu'Israël avait une mauvaise compréhension de la signification de son alliance avec Dieu. Il considérait que la présence à ses côtés de l'arche de l'alliance, le coffre sacré au-dessus duquel Dieu habitait, constituait une garantie de l'action de Dieu en leur faveur, de sorte qu'ils auraient toujours la victoire. Au contraire, Dieu attendait un réel attachement de cœur du peuple et une adhésion exclusive de toute idole. C'est exactement ce qu'on fait, n'est-ce pas ? Cette erreur de compréhension créait auprès d'Israël une attente d'un secours qui ne venait pas et le peuple était déboussolé et déçu. Le peuple se réjouissait de la présence de Dieu, mais ne savait pas l'honorer et était puni pour son attitude qui tenait en clair plus de la superstition que d'une foi obéissante. Dans ce texte, nous lisons que l'arche de l'alliance rendue par les Philistins est restée, combien ? 20 ans à Kiriath Yearim dans la maison d'Abinadab. Pendant 20 ans, le peuple a mis à l'écart leur culte à Dieu. Ils avaient peur, ils savaient comment gérer cette présence au milieu d'eux. Est-ce que ça n'illustre pas une réalité spirituelle encore présente de nos jours ? Avons-nous peur d'aller plus loin avec Dieu, de ce qu'il pourrait nous demander de faire ? Préférons-nous vivre en marge de sa présence dans nos vies, nous appuyant sur une fausse sécurité ? Et les choses ne sont pas binaires. Ce n'est pas ceux qui sont en dehors de l'Église et ceux qui sont dans l'Église. C'est aussi parfois nous qui venons en ce lieu et on est décalé. Laissons-nous insidieusement notre vie chrétienne se résumer à des règles que l'on suit alors que Jésus nous appelle à une relation vivante tous les jours avec lui. Ou peut-être professons-nous le Seigneur de notre bouche, mais ne savons comment lui plaire par une foi obéissante. Qu'est-ce qui se passe dans ce texte ? L'oppression a fait quoi ? Elle a ramené le peuple à Dieu. L'arche a été négligée. Le peuple s'est peu à peu éloigné de Dieu. Les conséquences du péché et du rejet, c'est l'oppression des ennemis. Et le peuple revient à Dieu en faisant quoi? En se repentant sincèrement. L'oppression est donc d'une part la conséquence de l'infidélité du peuple, mais d'autre part aussi le moyen utilisé par Dieu pour faire revenir le peuple à lui. Il change le mal en bien, la malédiction en bénédiction. Je peux vous le dire, de nombreuses histoires de chrétiens persécutés témoignent de cette réalité. Et nous, on est un peu endormis, en clair. On est dans notre petite vie tranquille, parfois, sans que ces chrétiens persécutés n'aient nécessairement péché ou se soient éloignés de Dieu. Lorsque les choses vont mal, ils se réfugient et se rapprochent de lui naturellement. Et cette nouvelle intimité avec Dieu se prolonge au-delà de l'épreuve, de sorte que les difficultés et les persécutions leur sont, et ça c'est quand même terrible à dire, finalement, j'ose à peine utiliser ce terme, mais profitable. Et parfois avec nos petits malheurs, on revient à Dieu. Donc quand vous êtes en Érythrée, enfermé pendant 10 à 20 ans dans une grotte, sans voir le jour, parce que vous professez Jésus-Christ, et que vous continuez à professer Jésus-Christ, et que vous continuez, Kamala est née dans une famille hindoue, comme nous l'a lu Aude tout à l'heure, au sein d'une communauté pauvre de l'ouest du Népal. Alors qu'elle est encore jeune, son père donne son cœur à Jésus. Et elle-même découvre la foi en un Dieu d'amour qui sauve. Malheureusement, elle choisit plus tard d'épouser un homme hindou qui la détourne progressivement du Seigneur. Dans les années qui suivent, sa vie devient de plus en plus difficile, avec une belle famille alcoolique et un mari infidèle, l'empêchant de pratiquer sa foi. C'est dans cette souffrance, réalisant que ce chaos découle de sa désobéissance, qu'elle se repent de sa trahison à Dieu et revient à sa famille chrétienne, l'Église et à la foi. Omar, que nous avons vu en vidéo, sert Dieu dans le nord du Mozambique, une zone où la persécution violente contre les croyants est malheureusement pratique courante. J'ouvre une petite parenthèse. Je peux vous dire que l'Afrique, en ce qui concerne nos frères et sœurs chrétiens, c'est une boucherie. Il n'y a pas d'autre terme. C'est une boucherie. Et c'est dans cette souffrance que Omar témoigne. Malgré les menaces, les agressions, de fausses accusations d'enlèvement, il continue à partager l'évangile et à former de nouveaux disciples. Un jour, un groupe islamiste l'attaque, le jette par terre, le lie et s'apprête à le frapper violemment à la tête avec un bâton. Il pense à dernière heure arrivée. C'est à ce moment précis qu'il vit une expérience puissante de la présence de Dieu à ses côtés. Je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Prochaine diapo, s'il te plaît. La nécessité d'un retour sincère à Dieu. Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, dit un Samuel. Samuel est le prophète de Dieu. Et son attitude nous parle de la manière dont Dieu lui-même réagit vis-à-vis du peuple. Lorsque le peuple vient le voir dans une démarche sincère, que fait Dieu? Comme avec nous, il ouvre ses bras. Il accueille le peuple avec joie et lui rappelle les conditions d'un retour réel à Dieu. Assemblez tout Israël à Mispa et je prierai l'Éternel pour vous. Il est tellement réconfortant de constater que Samuel ne fait pas de reproche au peuple, comme Dieu non plus n'en fait pas lorsque nous nous tournons avec sincérité vers lui. Samuel accueille et encourage la démarche du peuple, lui montre ce que Dieu attend et participe lui-même pleinement au retour à Dieu. Ils dirent à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Il prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel. Lorsque Kamala revient à sa famille et à Dieu, les choses sont difficiles. Elle doit endurer le divorce, la persécution de son frère qui n'est pas chrétien, mais elle trouve refuge en Dieu et la recherche de tout son cœur. D'abord hébergée provisoirement dans l'église, elle trouve ensuite une chambre où vivre avec sa fille et reconstruire sa vie. Elle peut témoigner de la bonté de Dieu à son égard, car il lui a fait bon accueil. Une repentance profonde et sincère. Les paroles de Samuel montrent la nécessité d'une démarche sincère. Il parle de la réalité profonde du cœur des personnes qui souhaitent revenir à Dieu. Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Est-ce qu'on extrait ce bout de texte pour nos cœurs et nos vies et servez-le lui seul ? Je suis pas sûr que je peux le dire tous les jours, à titre perso. Le Seigneur ne peut se satisfaire de démarches formelles ou liturgiques si elles ne sont pas vécues profondément et en vérité. Il désire que nous manifestions un élan sincère vers lui, une repentance véritable et profonde. Ce qui est intéressant, c'est que le mot repentance, si on fait un sondage dans les rues aujourd'hui, je suis pas sûr. Ses frontières. Cette victoire confirme le bon accueil que le Seigneur a accordé au peuple repentant. Elle atteste du rétablissement d'Israël dans son alliance avec Dieu. Et Samuel, pour commémorer cela, place la pierre Ebenezer, pierre du secours, sur le lieu même de la défaite historique que le peuple avait subie des années auparavant et qui avait permis l'oppression de l'ennemi durant si longtemps. Enfin, un temps de délivrance et de repos. La pierre posée est une proclamation du plein rétablissement d'Israël dans son territoire, et bien plus important que ça, dans son alliance avec son Dieu. Et on voit qu'il va bénéficier d'une paix durable. Cette Happy End illustre ce que Dieu peut et veut faire également dans ma vie, dans nos vies. Il souhaite nous bénir. Dieu nous aime. Chacun, il veut nous bénir dans de nombreux domaines, nous accorder sa paix et sa joie. Est-ce qu'on réalise parfois que nous avons un Dieu de paix et un Dieu de joie ? Nous avons une vie de liberté avec lui. Une vie de victoire, ce qui est possible. Victoire ne voulant pas dire vie facile. Mais lorsqu'on revient à lui dans la sincérité et la repentance, nous pouvons vivre comme le peuple a vécu. Kamala aussi nous donne un exemple de la restauration que Dieu opère dans les vies et auprès de ceux qui reviennent à lui. Elle a repris progressivement le cours d'une vie normale, car Dieu l'a sortie de l'épreuve. Vous connaissez cette expression, on sort par le haut. Et il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai réalisé sortir par le haut. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ? Je suis sûr que la prochaine fois que vous l'utiliserez, vous pensez à cet instant où j'ai évoqué « par le haut » signifie certainement quelque chose de grandissime. Prochaine diapo, une pierre est posée. Pierre du secours, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. C'est un signe de reconnaissance à Dieu ainsi qu'un rappel pour les générations futures. Elle constitue une pierre de référence, un signe visible, un souvenir permanent pour le peuple du secours et de la fidélité de Dieu à leur égard. La parole de Samuel, lors de cette inauguration, montre que son regard s'étend à toute la période des juges. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et malgré les chutes périodiques du peuple, Dieu a toujours été fidèle. Dans quel sens ? Il a toujours veillé sur son peuple pour le ramener à lui et le sauver. Et il ne manque jamais de répondre lorsque le peuple se tourne vers lui dans une repentance sincère. Je suis sûr que ça vous parle. Je suis sûr que ça nous parle. Combien de fois on est loin, on revient, on est loin, on revient, on est loin, et puis on est encore loin et on revient. Ne sommes-nous pas nous aussi appelés à faire de temps en temps des points d'étape dans notre vie pour jeter en arrière un regard à froid et reconnaître la présence bénissante du Seigneur à nos côtés, même dans les temps de difficulté? Ne devons-nous pas nous aussi reconnaître, et là mon épouse va sourire parce que c'est une obsession chez moi, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Sa puissance et sa souveraineté maintes fois démontrées dans notre histoire passée. Cette démarche de reconnaissance est un acte d'adoration salutaire, nous plaçant dans une juste attitude vis-à-vis de celui qui, comme un bon père, nous a fidèlement conduits, protégés, secourus, et dans certains cas aussi, corrigés avec amour pour nous ramener sans cesse à lui. Et ça, c'est pas à la mode d'être corrigé. Il paraît même que c'est prohibé. Notre Dieu nous corrige et nous ramène à lui. Peut-être pouvons-nous même identifier de manière tangible dans notre mémoire, dans nos phases de vie, des pierres souvenirs qui témoigne des interventions de Dieu en notre faveur, de sorte à ne pas oublier sa grande fidélité à notre égard. Et ces souvenirs sont alors comme autant de témoignages auprès de nos familles, de nos amis. Pourquoi faire ? Pour le faire connaître et l'honorer dans sa grande fidélité à notre égard. Rien d'autre. Lorsque nous considérons la fidélité de Dieu tout au long de notre marche et jusqu'à ce jour, et que nous pouvons dire avec Samuel, « Jusqu'ici l'Éternel m'a secouru », nous faisons quoi ? Nous fortifions notre foi et nous gagnons en maturité. Nous devenons de plus en plus forts pour affronter, pas un chemin facile pour demain, mais les difficultés que nous allons à nouveau rencontrer. Car nous avons expérimenté sa bonté et sa fidélité dans le passé, même au cœur de l'épreuve. Kamala partage avec nous son expérience. Quand j'étais jeune, j'allais à l'église. Mais c'était juste une routine. Maintenant, après avoir été confronté à cette situation, je me sens plus proche de mon Dieu. Il ne nous abandonne pas dans les moments difficiles, il veut que nous dépendions de lui et que nous ayons foi en lui. Il nous aide à surmonter les difficultés. Omar et sa femme, comme vous l'avez entendu, ont été contraints de déménager. Ils se tournent vers Dieu pour savoir s'ils doivent continuer leur ministère. La fille trouvée par Omar ayant renforcé sa foi, il décide de revenir sur les lieux où il était persécuté afin de continuer sa mission. Je ne vous dis pas le nombre de requêtes chez Open Doors qu'on reçoit eu égard à l'exfiltration de chrétiens de leur pays. Ça n'est pas l'objet de notre mission, nous sommes obligés de dire non, dans la plupart des cas, parce que notre objectif est de maintenir l'Église de Jésus-Christ vivante dans les pays où ils sont. Si nous exfiltrons, l'Église disparaît. Dieu est grand, il peut la maintenir. Mais notre job, c'est d'aider des gens comme Omar à revenir vivre sur les lieux. De leur persécution. Nous avons compris que le Seigneur Jésus nous voulait ici à servir les disciples et l'Église de cette région et être la voix des chrétiens persécutés qui souffrent, qui pleurent, qui passent par des épreuves en raison de leur foi. En conclusion, sachons regarder en arrière pour considérer la grande fidélité de Dieu dans notre marche à ses côtés et la manière dont il permet aux épreuves de nous ramener constamment à lui. Réjouissons-nous des délivrances apportées, de son pardon toujours offert, de sa bienveillance sans cesse démontrée. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus en nous appuyant sur l'expérience passée de sa fidélité dans les bons et les mauvais jours. Apprenons à revenir sans cesse à lui, dans l'humilité et la repentance. Notre foi grandira, notre intimité spirituelle avec lui tout autant. Soyons également attentifs à sa voix. Ne sommes-nous pas invités à être l'expression du secours et de la fidélité de Dieu pour notre entourage et avec les chrétiens persécutés? Je vous soumets cette question. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et je terminerai par ce magnifique passage dans 2 Timothée. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Et si nous sommes fidèles, lui demeure fidèle aussi. Yves ?